Itinérance, une création radiophonique produite par l'Assemblée régionale des radios associatives en partenariat avec la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée.
Je suis sous les bombes. Le mot misère me hante. Je fuis un cousin qui veut m'assassiner.
J'ai peur pour ma vie
et peur du dernier coup fatal envoyé par le père de mes enfants. Elle échappe à une dictature. L'autre cherche une vie simple. Eux n'ont pas de travail pour survivre. Elle a 90 ans. J'en ai 28. À moi, on nous dit que la vie sera meilleure en Europe.
Ou ailleurs, en tout cas.
Me voici balancée sur la route. Nous n'avons franchement pas grand-chose à voir, et pourtant, on nous nomme de la même manière. Partout, j'entends parler de nous. Les personnes migrantes, réfugiées, sans-papiers, demandeurs et demandeuses d'asile.
Je ne comprends pas ce qui se passe.
Je ne sais pas ce qui nous lie.
Je ne comprends pas ce qui se passe.
Est-ce l'histoire, nos histoires, leur guerre, les flux, nos périples, ou simplement que l'on vienne d'ailleurs? Politique, économie, conflit familial, recherche de sens. Nous avons toutes et tous cherché à fuir quelque chose, quelqu'un, quelque part, c'est sûr. Mais pour trouver quoi? Personne n'a encore vraiment su nous dire, et l'histoire n'en démord pas. Nous sommes là.
Je m'appelle Carmen Cruz Prats, née à Barcelone et mariée à Albert Henry. Donc c'est Madame Albert ici en France. Voilà. Et je suis née en 1930 à Barcelone, en pleine guerre civile. Voilà. Et je devais m'appeler Katiuska. Et comme mon père n'était pas là quand je suis née, qu'il était au front, c'est ma grand-mère qui m'a donné son nom, comme on faisait dans le temps. Et je m'appelle Carmen à cause de ça. Mais mon fils, il m'a toujours appelée Katiuska. Ce qui fait que je le suis encore, Carmen Katiuska.
Ce sont les premiers jours de février. La neige recouvre tout. Mais la couche n'est pas assez épaisse pour empêcher la boue gelée de coller aux semelles. Il y a quelques heures, j'ai quitté les ruines encore fumantes de mon village pour fuir plus loin sous le ciel gris de l'hiver. Nous avons tout abandonné. À mesure que la frontière approche, la foule grossit sur la route. Cette masse immense et muette est portée par l'espoir qu'une fois de l'autre côté, elle en aura fini avec la guerre et les souffrances. Les fossés sont pleins de charrettes renversées. Les mules et les chevaux meurent d'épuisement. À ceux qui manquent d'air, les hommes n'ont que de la répugnance à témoigner. Le lent cortège continue de s'écouler sur la route. Nous sommes transis de froid.
Somos los pobres refugiados. Al campo llegamos después de tanto andar. Hemos pasado la frontera a pie por carretera con nuestro ajuar, mantas, macutos y maletas. La retirada por nous, c'est que mon père, il était anarchiste et il faisait partie des militants qui luttaient contre Franco. Et on était en Espagne, mais comme Franco, il a pris le dessus, eh bien, parce que tous les pays étrangers sont venus l'aider à Franco, que ça, personne ne le sait, on a perdu. Et alors, on a été obligé de partir, parce que sinon, Franco nous aurait tués carrément, là, sur place, famille et tout. Alors, on a été obligé de partir en France, parce que c'était le premier pays qui se trouvait là, à côté. Et on est arrivé donc en France, tant bien que mal, ensemble avec mon père, ma mère, mon frère qui avait 6 mois. Et quand on est arrivé à la frontière, c'était les Espagnols, je crois, ou les Espagnols ou les Français, ils ont retenu les hommes. Et les femmes, ils les ont faites partir par le train. Et les hommes, ils sont restés là. Et alors, on a été séparés durant 2 ans de mon père en France, sans savoir où il était. Et ma maman, avec mon frère qui n'avait que 6 mois, elle en a bavé énormément. Je le comprends maintenant plus qu'avant, bien sûr. Et on est resté, on nous a mis dans une prison à Uzès, une prison désaffectée. Il n'y avait pas de malfaiteurs, mais on nous a mis à nous là-dedans. Et on allait promener le jour avec des gendarmes autour de nous, comme si on avait été des assassins, je ne sais pas. Alors les gens dans la rue, les gens qui habitaient cette ville, petite ville, Uzès, et alors ils nous balançaient des pierres, hein, parce qu'ils pensaient qu'on était des assassins, des gens qui venaient voler leur travail, leur pain qu'ils mangeaient, enfin ils nous disaient de tout. On a été pendant longtemps la cible des gens. Pas tout le monde, mais beaucoup de monde. Et alors, bien sûr, encore plus malheureux. Et au bout de 2 ans de cette vie comme ça, on nous a réunis avec mon père. Parce que lui, mon père, de son côté, il a été au camp d'Argelès-sur-Mer. Il était là avec tous les hommes, enfin tous, beaucoup, parce qu'il y en avait d'autres de camps. Ils sont restés là, sur la plage, sans maison, sans baraque, sans rien, sans WC, sans manger, rien de tout ça. Et alors, il en avait aussi, mon père, de son côté. Et alors, quand on nous a réunis, parce que mon père était ébéniste à Barcelone, il travaillait le bois, ils l'ont envoyé dans les Alpes pour faire un barrage et comme coffreur en bois, faire le coffrage du barrage avant de lancer l'eau. Et là, on est resté 6 mois. 6 mois parce qu'on était à, je ne me rappelle plus comment ça, à Vrille. Dans les Alpes, je ne me rappelle pas exactement l'adresse. Et on est resté là, et au bout de, même avant les 6 mois, il y a l'Italie qui a déclaré la guerre à la France, Mussolini. Et alors il a fallu qu'on reparte. On est reparti avec les gens du village aussi, parce que là au village, ils nous disaient. Pas tout le monde quand même, mais le curé, il est venu me chercher en me disant que si j'allais pas à la messe, il ne me donnerait pas d'appartement, il nous enlèverait la maison, enfin la petite maison qu'on avait. Alors mon père, il s'est mis en colère en tant qu'anarchiste, il est allé voir le curé et il lui a parlé mal en espagnol. Mais le curé italien, il l'a compris. Et alors... À ce moment-là, ils ne nous ont rien dit, mais comme on est parti presque de suite après, ça n'a pas eu on n'a pas su autre chose, quoi. Et on est parti, en partant, on était toujours en 39, c'était en 39, ça. Oui, moi je suis née en 30, j'avais pas encore 9 ans, donc ça, oui, ça a passé un peu un an ou deux, comme ça. On nous a menés dans les Pyrénées. Et dans les Pyrénées, on était à Ozat, ville de Sos. Et là, on est resté donc aussi dans un barrage, mon père. Et nous, on est resté dans une maison, si on peut dire une maison, mais enfin, on avait un toit en tout cas, plus ou moins plus vieux. Et là, on est resté 8 ans. Et là, il a commencé à gagner un peu d'argent. Et on s'est un peu amélioré quand même. On avait un peu plus à manger parce que pour manger, les gens de la région, ils ne nous donnaient pas à manger. Il fallait que j'aille moi, parce que ma maman, vous savez, dans l'Ariège, en hiver, il y avait de la neige au moins 1,50 m dans les rues. C'était horrible. Ma mère, elle ne pouvait pas. Elle n'a jamais vu la neige à Barcelone. Il n'y avait pas de neige. Et alors, c'était moi qui allais dans les, dans les fermes des montagnes pour aller chercher du lait pour mon frère. Parce qu'il était petit, mon frère. Il avait 2 ans à ce moment-là. Mon père étant à la montagne, il ne pouvait pas non plus, il ne descendait qu'une fois par semaine et encore. Et alors c'était moi qui faisais tout ce travail. Avec plaisir, parce que j'ai toujours aimé la montagne. Et là, alors, petit à petit, mon frère s'est amélioré, parce qu'il a été malade, étant bébé, parce qu'il ne mangeait pas comme il fallait, un bébé. Et alors, petit à petit, ça s'est arrangé. Et là, donc, je vous dis, on est resté 8 ans. Et au bout de 8 ans, il y a des copains anarchistes de mon père qui lui ont dit, écoute, si tu veux, en tant qu'ébéniste, tu peux aller à Paris travailler, tu gagneras mieux ton argent. Et mon père, il a eu peur pour nous, pour mon frère et pour moi, parce qu'il a dit, ses enfants, ils sont dans un tout petit village. Et tout d'un coup, on les met dans la capitale, ça va être horrible pour... il n'a pas voulu. Il a dit non. Et puis finalement, ils lui ont proposé Béziers. Donc à Béziers, il y a été parce que... Et puis là, on est resté là tout le temps après, à Béziers. Et mon frère... j'allais dire mon fils, ça c'est plus loin. Et mon frère... Il a pu aller à l'école, donc il a fait ses études. Moi, je n'ai pas pu, parce que j'avais 10 ans. Et à 10 ans, je ne savais pas la langue française. Et je ne savais rien. Je ne savais pas écrire le français, rien. Et quand on m'a mis à l'école à Vic-de-Sauce, c'était justement dans l'Ariège, je ne savais pas. Alors, ils m'ont mis avec les plus petits. Et là, j'ai commencé à écrire comme si j'avais 6 ans ou 3 ans ou je ne sais pas quoi. J'ai quand même appris le français et à ne pas faire trop de fautes. Mais c'est tout. Je n'ai pas pu aller plus loin dans les études. Et alors, il a fallu que je me débrouille autrement. Hein. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça, la vie.
La République espagnole a 5 ans quand, au printemps 1936, le Frente Popular remporte la victoire électorale. Cette victoire est acquise grâce à l'alliance des gauches et au soutien des anarchistes qui dérogent à leur principe d'abstention aux élections. Ceci afin d'obtenir la libération des prisonniers politiques que le Front Populaire a promis de réaliser en cas de victoire. À droite, on pense que cette coalition de gauche va faire une révolution. À gauche, on considère que la droite a pour but d'établir une dictature fasciste. Dès le lendemain des élections, des complots se forment. À leur tête, on trouve les généraux Sanjurjo, Mola, Godet, Fanjul et un peu plus en retrait, Franco. Le gouvernement, informé de ces conspirations, a pour seule réaction de déplacer loin de Madrid les hauts responsables soupçonnés. L'insurrection militaire de juillet 1936 survient après plusieurs mois de grève, d'expropriation, de batailles entre paysans et gardes civils. L'aile gauche du Parti socialiste a demandé en juin d'armer les ouvriers, mais le gouvernement a repoussé cette proposition. Le soulèvement débute le 17 juillet au Maroc espagnol, où Franco prend le commandement des troupes. Quand l'insurrection éclate, le gouvernement républicain se trouve paralysé. Ses premiers communiqués, au bout de 24 heures pleines de confusion, se veulent rassurants, reconnaissant seulement qu'une partie de l'armée s'est soulevée au Maroc. À Séville, des travailleurs désarmés tentent en vain de s'opposer au soulèvement. Le gouvernement, par crainte de les voir tomber entre de mauvaises mains, refuse de donner des armes aux travailleurs qui en réclament, menaçant de faire fusiller ceux qui leur en fourniront. Le gouvernement républicain tente une conciliation avec les militaires en proposant la mise en place d'un gouvernement de compromis à la place du Frente Popular.
C'est un échec. Ni du côté nationaliste, ni du côté républicain, on ne veut de compromis. L'issue guerrière est inévitable. Le 17 juillet, à Barcelone, les militants de la CNT commencent à s'armer dans les arsenaux et les chantiers navals. Leur détermination fait basculer de leur côté la garde civile et la garde d'assaut, obligeant les militaires à capituler dans la deuxième ville du pays. Quand le gouvernement décide de donner des armes à la population, celle-ci est déjà armée. À Madrid, des armes sont finalement distribuées aux ouvriers, mais dépourvues de culasses. Le 20 juillet, la population lance quand même l'assaut contre la caserne de la Montaña et réussit à s'en emparer. La Navarre, Castille et León, la Galice, l'Andalousie occidentale et les grandes villes d'Aragon tombent rapidement aux mains des putschistes. Le reste du pays demeure fidèle à la République. Madrid, Valence et Barcelone restent aux mains des républicains, grâce notamment aux milices ouvrières très vite mobilisées. Au bout d'une semaine, le pays est coupé en deux. D'un côté, les nationalistes. De l'autre, les républicains, qui conservent les régions les plus riches, les plus industrielles et les plus urbanisées. Pour l'historien Denis Péchanski, le XXe siècle a été le siècle des camps. C'est même au tournant de ce siècle que furent érigés les premiers. Le système se développa ensuite sur tous les continents et dans tous les régimes. Les camps, souvent construits en premier lieu à destination des militaires, auront été utilisés tout au long du XXe siècle dans des fonctions diverses. Il continue de l'être encore aujourd'hui, puisque cette histoire des camps est étroitement liée à l'histoire des étrangers. À chaque fois qu'une décision politique fait défaut concernant l'accueil des étrangers, les camps se profilent dans nos horizons contemporains. De la jungle de Calais, au camp libanais du HCR, des camps de réfugiés de l'île de Lesbos, au campement sauvage de La Chapelle. Dans le même temps, une demande sociale apparaît pour que ces lieux symboliques que sont les anciens camps soient, au-delà du lieu de mémoire, les outils d'une démarche historique et pédagogique, faisant de cet usage patrimonial le vecteur d'une histoire collective, partagée et citoyenne. Ce sont, comme à Rivesalt, des strates d'histoire qui se superposent. À la mémoire des républicains espagnols, à la mémoire des tziganes internés, aux Juifs déportés vers Auschwitz, aux harkis supplétifs de l'armée d'Afrique, aux milliers d'hommes et de femmes dont le seul tort était d'être étranger.
Los moros que trajo Franco en Madrid quieren entrar, mientras queden milicianos, los moros no pasarán. Mientras queden milicianos, los moros no pasarán. No pasarán, no pasarán. Que me tiré en el puente y también la pasarela, me verás
pasar el Ebro en un barquito de vela. Me verás pasar el Ebro en un barquito de vela. No pasarán, no pasarán. Diez mil veces que los tiren, diez mil veces los haremos. Tenemos cabeza dura, los del cuerpo de ingeniero. Tenemos cabeza dura, los del cuerpo de ingenieros. No pasarán, no pasarán. En el Ebro se han hundido las banderas italianas. En los puentes solo quedan las que son republicanas. Y en los puentes solo quedan las que son republicanas. No pasarán, no pasarán, no pasarán, no pasarán.
Je ne comprends pas ça.
Les personnes de notre monde,
réfugiés,
sans papier. Alors, est-ce qu'il y a un platane?
Demandeurs et demandeuses d'asile. Je ne sais pas ce qui nous lie. Je ne comprends pas ce qui se passe.
Rue de la Fontaine. Ah bah oui, rue de la Fontaine.
Est-ce l'histoire, nos histoires, leur guerre, les flux, nos périls ou simplement que l'on vienne d'ailleurs?
C'est Carmen.
Politique, économie, conflit familial, recherche de ressources. Pierrerue est un petit village proche de Béziers. Il fait partie d'une commune rurale à vocation principalement viticole et touristique.
C'est un petit village perdu, là. Le village, il est perdu, là. Quand on ne connaît pas, hein.
Quand on arrive de Béziers, bonjour, par le col de Fongin, on découvre un paysage grandiose avec en fond le massif du Caroux, les vignobles de l'appellation Saint-Chinian et les villages de Pierrerue. Et de Combes-Jean.
Il n'a pas plu, j'avais dit qu'il ferait...
Bonjour.
Bonjour.
Tu m'appelles Féva.
Féva?
Oui.
Ah, mais c'est bien. On va rentrer. Moi, j'habite là, cette maison.
C'est dans le village de Pierrerue que vit Carmen.
Et le bébé, où il est?
Il est là.
Ah. Je ne le vois pas. Je ne le vois pas. Ah, mais il est grand un petit peu. Hein. Il est pas... C'est pas un bébé encore.
Il est 7 mois.
Ah, quand même.
Depuis Sainte-Afrique, Favor a fait la route avec son bébé pour venir à la rencontre de Carmen.
Bonjour, madame.
Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Je m'appelle Favor.
Yann.
Enchanté.
Et toi? Coucou. Il dort. Oh, oui, d'accord. Tu dors.
Mon frère, hein, celui qui avait 6 mois quand on a passé la frontière.
Ah, c'est moi, le frère.
Bonjour.
Bonjour,
monsieur.
Qu'est-ce qu'on fait? On s'embrasse?
Oh, le bébé, qu'il est beau.
Mmh. Ah, c'est trop fort. Bonjour. Mmh. Gilbert Liberto.
Liberto.
En espagnol, Liberto, et francisé après un Gilbert, quand je suis devenu français. Vous savez, il y en a qui m'appellent Liberto, il m'appelle Gilbert, il y en a qui m'appellent Liber.
Et moi je l'appelle Liberto.
Ne m'appelez pas maître.
Ou tonton.
Je ne m'appelle pas maître. Non,
je m'appelle tonton des fois.
Ou président. Non, ça ne me plaît pas. Entrez.
T'as ton téléphone, peut-être.
Oui, c'est bon. C'est vrai qu'on ne les voit pas beaucoup là.
Bonjour. Regarde, il ne connaît pas.
Qui c'est ces gens, hein? Qui c'est ces gens? Tu ne connais pas, hein, ces gens.
Il va se dire, défais-le parce qu'ici il fait chaud, il aura froid après.
Ah.
Et oui. Ah. Oh, que c'est joli ça, dis donc.
My name is Favour.
Je m'appelle Favour.
I'm 28
J'ai 28 ans et je viens du Nigeria.
I'm in France since
je suis en France depuis janvier 2017. J'ai deux enfants et j'habite à Centrafrique. Lorsque je vivais au Nigeria, je faisais différentes activités. J'ai travaillé dans un restaurant, dans un salon de coiffure ou encore à la crèche. Je viens d'une famille polygame. Mon père a épousé deux femmes et ma mère était sa seconde femme. Elle a eu 11 enfants, mais deux sont morts. Donc nous sommes 7 filles et 4 garçons. Je vivais à Delta State et je viens du gouvernement local d'Éthiopie East. Aujourd'hui, mes parents sont morts. Lorsque j'étais au Nigeria, j'étais en relation avec un homme avec qui j'ai eu un bébé. Une fille. Elle a 5 ans aujourd'hui. Mais je me suis séparée de cet homme. Car ce n'était pas une bonne relation. Il me traitait mal. Il avait un tempérament chaud. La première raison pour laquelle je suis partie du Nigeria, c'est à cause de cet homme. Il ne me laissait pas de répit. Même s'il était gentil au début. Du moment où j'ai donné naissance à notre enfant, son attitude a changé. Il me frappait régulièrement. La dernière fois qu'il m'a frappé, il a frappé si fort sur ma poitrine que je sens encore la douleur aujourd'hui. Je suis allée à l'hôpital et ils m'ont dit que rien ne clochait et pourtant, je sens encore la douleur aujourd'hui. Ça fait 4 ans maintenant. Donc après ça, j'ai dû le quitter car je vivais avec lui. Je suis partie vivre chez ma mère lorsqu'elle était encore vivante. Il m'a demandé de revenir vers lui et je lui ai répondu que ça n'était pas possible à cause de la façon dont il me traitait. Alors il a dit que si je ne revenais pas, il ne serait plus responsable du bébé, qu'il ne s'en occuperait pas. Je lui ai dit qu'il n'avait pas à s'en occuper, que c'était ma fille aussi. Donc j'ai dû m'occuper de mon bébé et trouver un travail en manicure et pour maquiller les gens. Mais je le croisais à chaque fois et il cherchait à me faire mal et ne me laissait pas de répit. Il était toujours en colère, il criait. Donc j'ai eu peur. Il m'a dit que si je ne l'épousais pas, il m'interdirait d'épouser un autre homme au Nigeria, qu'il me tuerait si j'épousais quelqu'un d'autre. J'avais très peur à cause de son tempérament. À la base, je ne voulais pas quitter le Nigeria. Je voulais aller chez mon oncle qui habite dans la ville de Bénin. C'est le frère de ma mère, le plus jeune. Alors j'en ai parlé à ma mère et je lui ai dit que je voulais partir là-bas. Aussi parce que sa femme a un restaurant là-bas. Ma mère a trouvé que c'était une bonne idée. Je lui ai laissé mon bébé et je suis partie dans la ville de Bénin pour rencontrer mon oncle. Lorsque je suis arrivée, il m'a dit que ça allait être compliqué de m'héberger car il avait 5 enfants dont il devait s'occuper. C'est alors que sa femme a dit que plutôt que de vivre avec eux, Le mieux était de partir, car elle avait une amie qui pouvait m'emmener en Europe. Lorsqu'elle m'a dit ça, j'ai été intéressée par l'idée. Mais je pensais à mon bébé. Je lui ai demandé si c'était possible de voyager en Europe avec ma fille. Elle ne savait pas et elle m'a dit qu'elle devait demander à son amie qui lui en avait parlé. Je me disais que si je pouvais partir avec mon bébé, je pourrais avoir une vie meilleure.
Jouer de ma naïveté, de ma culture de la confiance,
du voyage,
j'ai tout suivi,
les yeux fermés.
Le bonheur de quitter son pays pour voyager, ça ne fait pas peur au début, c'est excitant.
C'est
j'ai tout suivi,
les yeux fermés.
Personne de confiance pour nous rassurer.
Et nous dire que tout se passera bien.
Et nous envoyer en enfer sans même parfois s'en rendre compte. On ne savait pas ce qui nous
attendait.
Au début, je n'étais pas intéressée par l'idée de partir en Europe. Moi, je voulais vivre avec mon oncle, puisqu'il ne pouvait pas m'héberger. J'étais un peu confuse. Je ne voulais pas retourner chez ma mère, où cet homme allait encore me poser des problèmes, sûrement me tuer. Voilà pourquoi, lorsque ma tante a lancé cette idée de l'Europe, j'ai dit oui, si c'est ce qui va permettre de me libérer de ce stress, pas de problème.
Ah oui, même sans avoir vécu, quand tu es un humain, tu te mets à leur place, à ces gens. Mets-toi à leur place hein, et tu verras un peu ce que tu ferais. Qu'est-ce que tu ferais là ?
Je m'appelle Hamid. Mon nom de famille est Hassani. Je viens d'Afghanistan et j'ai 28 ans. Je suis arrivé en France le 8 juillet 2018. Ça fait donc un an et trois mois que je suis en France. Ici, pour moi, c'est à la fois agréable et difficile. Difficile parce que je vis dans une petite ville. Il n'y a pas beaucoup de salles de sport. Et moi, j'aime le sport. Et ce qui est agréable, c'est que j'ai une assistante sociale qui m'aide beaucoup. Je suis venu en France pour trouver une vie simple, une vie saine. Car mon pays n'est pas sain. Il y a des bombes et toujours plein de problèmes. Il y a trop de problèmes dans mon pays. Je veux une vie simple. Je veux que mes enfants n'aient pas de problèmes dans leur vie. Parce qu'en France, il n'y a pas de problème. Dans cette ville, en tout cas. Pas à Marseille ou Paris, parce que là-bas, il y a trop de problèmes. La notion de migration, une part est positive, l'autre est difficile. La part positive pour moi, c'est que j'ai une vie simple ici. Je n'ai pas de problème. Mais la migration est difficile, parce que je ne vois pas ma famille. Je ne sais pas s'ils vont bien. S'ils vont bien, je n'en sais rien. Ça, c'est dur pour moi. Je n'ai vécu en Afghanistan qu'une seule année. Sinon, j'ai vécu en Iran. J'ai toujours été un réfugié en Iran. Depuis 24 ans. J'ai eu un accident en Iran, avec mon camion. Mon père et mon oncle sont morts. Alors mon cousin m'a dit, tu as tué mon père. Je vais te poursuivre en Afghanistan. Tu as tué mon père. Alors je vais te tuer. Voilà pourquoi j'ai quitté l'Afghanistan. Je suis revenu en Iran pour voir ma famille pendant 3 jours. Puis je suis parti en Europe. Oui. Parce que mon cousin m'a dit, tu as tué mon père, je vais te tuer. Je lui ai répondu que c'était un accident et que mon père aussi était mort. Mais il ne veut pas entendre. Je ne sais pas ce qu'il pense. L'Afghanistan est un pays compliqué. Il y a des bombes qui explosent constamment. Quand tu te balades seul dans la rue à 6h du soir, tu ne peux pas rentrer chez toi. Parce qu'il y a les talibans, Daesh, Al-Qaïda. Ces groupes tuent en Afghanistan. Si tu es seul, même pour un téléphone, ils te tuent. Voilà pourquoi les Afghans vont au Pakistan, en Iran, en Turquie, Tadjikistan, Azerbaïdjan ou dans les Émirats. Ils y vont pour travailler. Et les jours où les pays leur disent « Rentrez dans votre pays », on n'a pas le choix. En 2014, 32 personnes ont été tuées pour cette raison à cause de Daesh. On leur a dit, tu viens d'Iran ? Oui, je suis afghan et je viens d'Iran. Elles ont été tuées par Daesh. Voilà pourquoi, en tant qu'afghan, nous allons dans tous ces pays. Iran, Pakistan, en Asie. En 2015, je pense que 80 000 afghans sont venus en Europe. En France, Autriche, Allemagne, Suède, Danemark, Suisse, n'importe où en Europe. Je ne sais pas pourquoi en Europe. Je suis venu en Europe parce que je pense que l'Europe sera meilleure pour moi. Parce qu'en Asie, je ne peux plus y vivre. Mon cousin pourrait me retrouver et me tuer. Je suis venu ici pour survivre.
Je comprends que c'est compliqué, mais on ne peut pas laisser mourir les gens comme ça, c'est pas possible. Moi, ça me sort des... Moi, quand je vois ça, ça me donne envie de pleurer, je ne sais pas de quoi faire. Hein. Je ne peux pas grand-chose de moi, hein. Mais c'est pas possible. Je sais pas. Comme mon père me disait, quand on était plus jeune, une bombe à la main, non. Allez, jette une bombe à ce
qu'on... Nous n'avons franchement pas grand-chose à voir, et pourtant, on nous nomme de la même manière. Partout, j'entends parler de nous.
Ils ne savent pas ce que c'est que d'avoir
les personnes migrantes, quitté
son pays, sa maison.
Réfugiés.
Ça, ils ne le savent pas. Alors, ils s'imaginent
sans papier.
Ils le font pour venir ici, pour emmerder les
demandeurs.
Gens.
Demandeurs.
Ce n'est pas le cas. C'est pas
et vrai. Demandeuses
c'est
d'Asie.
C'est qu'ils ne peuvent plus vivre là-bas. Il faut bien qu'ils vivent quelque part.
Je ne sais pas ce qu'ils nous lient.
Il faut bien qu'ils vivent quelque part.
Je ne comprends pas ce qui se passe.
Moi, Moi, je n'accepte pas.
Est-ce
ça.
L'histoire?
Mais qu'est-ce que vous voulez faire contre
nos
ça?
Nos histoires.
Vous voulez écrire une lettre au gouvernement et il les met à la poubelle. Non, mais...
Leur guerre.
C'est pas possible. Hein. Il faudrait que ce soit tout le monde qui soit contre ça.
Les flux.
Pas une seule personne ou deux ou trois.
Nos périls.
Tout le monde, incroyable. Si jamais ça arrive, ça peut arriver dans n'importe quel pays.
Ou simplement que l'on vienne d'ailleurs.
D'être obligé de s'en aller parce que c'est plus vivable.
Nos nous avons toutes et tous cherché à fuir quelque chose.
Nos idées, personne n'en est sûr.
Personne n'en
mais pour trouver quoi dire.
Et l'histoire n'en démord pas. Nous sommes là.
Les Retirés est un documentaire radiophonique, un regard croisé autour de la retirada et des migrations actuelles. Il a été réalisé par Radio Larzac en collaboration avec Radio Saint-Afrique. Recherche, repérage, Nicolas Vorel, Joseph Hula, Cécile Blanche. Scénario, création musicale, Nicolas Vorel. Interview, traduction, montage, aide à l'écriture, Émilie Lamine. Vous aurez pu entendre les voix de Anita Losada en tant que narratrice, Léa Venditti en interprète de Favor, Yanis Remia en interprète de Hamid. Une production de l'Assemblée régionale des radios associatives en partenariat avec la région Occitanie, Pyrénées, Méditerranée.